Radio Prague, les informations.
La diplomatie tchèque envoie un émissaire auprès des rebelles libyens mais ne les reconnaît pas officiellement comme gouvernement. Une messe à la mémoire des victimes des attaques d'Oslo à la cathédrale Saint-Guy à Prague. Et puis du football avec la victoire 5-0 du Sparta face au FK Sarajevo. Le ministre tchèque des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg a décidé d'envoyer à Benghazi un émissaire auprès du gouvernement des rebelles libyens. Toutefois, il a fait savoir que tant que ceux-ci n'auraient pas la maîtrise de tout le pays, la République tchèque ne les reconnaîtrait pas comme gouvernement légitime de la Libye. D'après le chef de la diplomatie tchèque, il n'y aura donc pas de bâtiment officiel représentant la République tchèque en Libye, mais l'émissaire pourra s'y déplacer selon les besoins. L'idée d'un émissaire serait née il y a un mois, lorsque Karel Schwarzenberg s'était rendu en Libye et avait rencontré l'opposition anti-Kadhafi et apporté une aide humanitaire. Le dernier ambassadeur officiel de la République tchèque, Josef Kautsky, avait quitté Tripoli en février au début du conflit. Ce vendredi soir, une messe sera organisée à la cathédrale Saint-Guy à Prague à la mémoire des victimes des attaques meurtrières en Norvège, commises la semaine dernière par Anders Behring Breivik sur l'île d'Utøya et dans la capitale norvégienne. La messe sera conduite par l'archevêque de Prague, Dominik Duka, en présence de l'ambassadeur de Norvège en République tchèque. Les funérailles de deux des 76 victimes ont été organisées ce vendredi à Oslo. Le président de la République tchèque, Václav Klaus, est toujours en Australie où il participe à des conférences sur le climat. Dans son carnet de voyage publié dans le quotidien Pravo, il écrit qu'il a davantage peur de l'environnementalisme et du passage à un gouvernement mondial et européen que d'Al-Qaïda. Pour illustrer son propos, il cite l'exemple des activistes écologistes qui s'enchaînent aux arbres de la Shumava atteints par le scolyte pour empêcher leur abattage. « Ma visite en Australie est un certain catalyseur du débat local sur le réchauffement climatique qui est plus vif que chez nous », écrit aussi le chef de l'État. Un employeur qui demande à ses employés de travailler le samedi malgré leur foi ne peut être poursuivi pour discrimination. C'est le sens d'un avis rendu par le médiateur de la République, Ombudsman, qui avait été saisi par deux membres de l'église adventiste du septième jour, église pour laquelle le septième jour désigne le sabbat, samedi, jour de repos et d'adoration. Selon Pavel Varvajovski, la loi antidiscrimination défend les individus contre les discriminations directes, mais n'oblige pas un employeur à ne pas organiser le rythme de travail selon les croyances de ses employés. On passe au foot. Je vous le disais en titre, l'équipe tchèque du Sparta Prague disputait jeudi soir à domicile le match aller de son duel comptant pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa contre le FK Sarajevo. Un match remporté facilement sur le score de 5-0. L'attaquant camerounais du Sparta, Leonard Kweuke, auteur d'une belle prestation, a marqué 3 buts, un hat-trick, et le match retour se jouera la semaine prochaine à Sarajevo. Un mot sur la météo pour finir, avec une légère baisse des températures et des averses plus fréquentes à prévoir pour ce week-end. Le programme en français de Radio Prague, c'est sur internet également à l'adresse www.radio.cz.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Alexis Rosenzweig pour ce bulletin d'information. L'alcool au volant reste une des causes importantes de la mortalité sur les routes tchèques et c'est les jeunes de moins de 25 ans qui seraient en général les plus touchés. Une campagne de sensibilisation est lancée dans le cadre des festivals d'été. Prague, une capitale sûre pour les touristes, c'est en tout cas le résultat d'une étude réalisée par l'agence du tourisme tchèque. On verra si la réalité vécue par les touristes y correspond. Bonne écoute de ce programme. Alors que la saison des festivals de musique bat son plein, une campagne vient d'être lancée à destination des jeunes conducteurs pour les inciter à ne pas prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. Ces rendez-vous musicaux vont souvent de pair avec une recrudescence d'accidents de voiture dus à la consommation d'alcool ou de psychotropes. C'est pourquoi l'équipe du BESIP, l'organe de coordination de la sécurité routière du ministère des Transports, a décidé de lancer une campagne de sensibilisation à destination des jeunes festivaliers intitulée « À toi de jouer ». Katarzyna Budinova est directrice du BESIP.
Cílem kampaně je to na tobě.
L'objectif de cette campagne est de se concentrer en particulier sur les jeunes conducteurs. D'après les statistiques, on se rend compte que les conducteurs qui ne conduisent pas depuis longtemps, qui n'ont leur permis que depuis 1 ou 2 ans, sont à l'origine d'un tiers des accidents de la route sous influence de drogue ou d'alcool. De même, la tranche d'âge des conducteurs de moins de 25 ans est la plus sensible. Nous voulons les mettre en garde, leur montrer quels sont les risques de conduire après avoir bu de l'alcool et quelles conséquences cela peut avoir, des conséquences qu'on doit ensuite assumer toute sa vie.
A s touhletou vlastně s tím následky případné nehody se musí vyrovnávat po celý život.
Et la campagne de sensibilisation commence dès ce week-end. L'organisation BCIP se déplace ainsi sur les sites de 7 festivals où des alcotests seront notamment distribués aux spectateurs. Ceux-ci pourront également s'essayer à des simulateurs de conduite dans les conditions d'une prise de substances psychotropes ou autres afin de se rendre compte des effets produits. Pour Katarzyna Budienova, l'idée est de faire de la prévention dans les festivals en ratissant large.
On veut profiter des festivals qui accueillent des groupes étrangers et des spectateurs venus d'autres pays pour toucher également les gens de passage. Nous voulons les informer des différentes règles en vigueur dans les pays, notamment la tolérance zéro au volant.
Depuis le début de l'année, 29 personnes en tout sont décédées sur les routes de République tchèque en raison de l'alcool, soit 9% du total des accidents de la route. Un chiffre toujours trop haut, mais qui accuse une baisse notable, dont se félicite le chef de la police routière, Leo Stergil, qui rappelle en outre le nombre total de décès depuis le début des vacances scolaires, soit depuis le 1er juillet.
Nechci být přílišný optimista, to už jsem vám říkal minule, nicméně.
Je ne veux pas être trop optimiste. Néanmoins, on peut dire que la situation est bien meilleure depuis le 1er juillet que l'an dernier à la même période. Je suis heureux de constater que le nombre de décès sur les routes a diminué. 52 personnes sont décédées sur les routes tchèques en tout depuis le début des vacances, soit 46 de moins que l'an passé.
Depuis le début de l'année, 319 personnes sont décédées sur les routes tchèques, soit 22 de plus par rapport à 2010. Et 11 400 personnes ont été testées positives au contrôle d'alcoolémie depuis le 1er janvier 2011. Rappelons qu'en tout, 753 personnes sont mortes sur les routes en République tchèque en 2010. S'il s'agissait là d'une baisse d'environ 10% du nombre de victimes par rapport à 2009 et du total le plus faible de ces 20 dernières années, la République tchèque fait partie des pays de l'Union européenne où le taux de mortalité sur la route reste l'un des plus élevés. En 2010, d'ailleurs, 2/3 des accidents ont concerné des personnes présentant un taux d'alcoolémie supérieur à 1 g d'alcool par litre de sang. Cette campagne est lancée alors qu'à partir du 1er août, le système de permis à points ne sera plus appliqué lors d'un test d'alcoolémie positif jusqu'à 0,3 g d'alcool dans le sang, remplacé par une simple amende. Mais le principe de tolérance zéro, parfois remis en cause, reste en place. Prague serait l'une des villes les plus sûres d'Europe. C'est en tout cas le résultat d'une enquête menée au printemps par l'agence Czech Tourism. Stratégie marketing pour appâter des touristes inquiets ou réalité du terrain, il semble que le but de cette étude soit avant tout de rassurer et de redorer le blason de la République tchèque. Vienne, ville voisine et concurrente directe de la capitale aux 100 clochers, jouit d'une très bonne image auprès du public. Selon l'agence, Prague serait quant à elle encore victime de sa réputation de ville de l'Est, en proie à la pauvreté et à la criminalité. Reportage de Pauline Darvet.
Il y a 17 ans, nous sommes venus à Prague en groupe et au niveau sécurité, nous avons été surpris par le fait que ce n'était pas très sûr en fait. Aujourd'hui, il nous semble une nette amélioration.
Si, comme l'a vécu ce touriste belge il y a une vingtaine d'années, Prague sortait de l'époque communiste et d'une période de transition un peu chaotique, l'eau a coulé sous les ponts depuis et Prague est l'une des villes les plus visitées d'Europe. La situation a changé à Prague, c'est ce que tend à démontrer la dernière étude de Czech Tourism. Différents critères ont pour cela été mis en avant. L'un des plus significatifs est sans doute le taux de criminalité enregistré dans chaque ville européenne. Ainsi, en 2009, 689 actes délictueux pour 10 000 habitants ont été relevés à Prague, contre 1032 à Vienne. Des chiffres encore plus élevés ont été répertoriés dans des villes comme Paris, Londres ou Bruxelles. D'autres indicateurs reconnus internationalement, tels que le Global Peace Index ou l'index de compétitivité dans le tourisme, ont été pris en compte et placent la République tchèque en très bonne position. Czech Tourism a également insisté sur le respect et l'importance des normes d'hygiène en République tchèque. La qualité de l'eau et de la nourriture y serait bien meilleure que dans d'autres pays européens. L'agence souligne ainsi la fréquence des contrôles dans les restaurants. L'étude mentionne aussi l'efficacité des services médicaux et la rapidité de la prise en charge en cas de problème de santé. Autant de facteurs qui visent à rassurer retraités et familles avec enfants qui souhaiteraient découvrir une ville de l'Est en toute sérénité. Le comportement des minorités et le nombre de crimes violents, autre sujet d'inquiétude, ont fait l'objet d'une attention particulière. L'agence tchèque du tourisme souhaite en effet déjouer les appréhensions que pourraient avoir certains touristes étrangers avant de partir. Mojmír Mikula, directeur de la division recherche et analyse de Czech Tourism, a exprimé sa volonté d'apaiser les craintes et de faire tomber certaines idées reçues.
Nous nous efforçons de convaincre les touristes étrangers désireux de visiter la République tchèque qu'ils ne doivent pas s'inquiéter des désagréments qui sont courants dans un grand nombre d'autres pays.
Un micro-trottoir réalisé dans les rues de la capitale auprès de touristes francophones semble confirmer les résultats de l'étude. Les personnes interrogées déclarent toutes se sentir en sécurité à Prague. La présence et le nombre important de policiers sont souvent évoqués.
À la base, on n'est pas des gens trop inquiets. C'est vrai qu'on se sent en sécurité à Prague. On a trouvé que la ville était propre. Du coup, ça nous pousse à être respectueux. Nos mégots vont dans les poubelles.
Et je trouve qu'ici, ce qui est bien, c'est que la police n'est pas uniquement répressive. En fait, elle est là pour aider aussi les gens. Et ça, je trouve que c'est rassurant qu'en France, si on les voit, c'est qu'il y a un problème.
Ben, on nous a prévenus, les guides, le guide du routard et tout ça nous prévient qu'il faut faire très attention. Et puis, moi, je ne me suis pas senti agressé.
On n'a pas du tout eu de sentiment d'insécurité, on est bien, les gens sont détendus, il y a beaucoup de touristes, c'est vrai, c'est un quartier agréable, on habite de l'autre côté du pont Charles par rapport au centre-ville et on est bien. On est venu à Prague en voiture, on a pu garer notre voiture, donc on est content.
Voilà, c'était le témoignage de touristes francophones recueillis dans les rues de Prague par Pauline Darvet. C'est la fin des faits et événements. On passe à la deuxième partie de notre émission. Dans la rubrique économie-commerce, nous revenons aujourd'hui sur l'entrée de la société tchèque Moser dans le prestigieux comité Colbert qui réunit plus de 70 maisons de luxe françaises et qui vient de s'ouvrir à 4 sociétés étrangères. Alexis Rosenzweig a joint par téléphone Elisabeth Ponsol-Desportes, la déléguée générale du comité Colbert.
Elisabeth Ponsol-Desportes, bonjour. Est-ce qu'on peut commencer par présenter d'abord ce qu'est le comité Colbert ?
Oui, bonjour. Le comité Colbert a été créé en 1954 en France. Au départ, c'est une initiative tout à fait personnelle de Jean-Jacques Guerlain, le grand parfumeur, qui regroupe autour de lui une douzaine d'entreprises françaises soucieuses de représenter la culture française et de s'unir pour mieux représenter cette culture française à l'étranger. Aujourd'hui, le comité Colbert regroupe 75 maisons représentant 10 secteurs d'activité différents que sont aussi bien le cristal, l'orfèvrerie, la porcelaine, la mode, le cuir, le parfum ou bien encore l'édition et la décoration.
Alors c'est toutes les plus grandes marques françaises qui sont connues dans le monde entier comme Louis Vuitton et bien d'autres.
Chanel, Hermès, Dior, mais aussi Baccarat, Martel, John Lobb, Mellerio, Cartier, enfin effectivement tous ces grands noms français dont l'histoire remonte parfois à plusieurs centaines d'années et qui illustrent le savoir-faire français, la qualité française et le goût français.
Alors, petite révolution très récemment pour le comité Colbert, à savoir la cooptation de 4 maisons de luxe étrangères.
Grande révolution pour le comité Colbert, parce que c'est un comité qui a vraiment été créé pour promouvoir l'art de vivre français, mais nous avons considéré que depuis 1954, date de la création de notre comité, eh bien l'environnement, notamment réglementaire, juridique, avait changé et qu'il était nécessaire aujourd'hui, pour mieux faire entendre la voix du secteur du luxe, d'avoir une représentativité élargie. Et donc, nous avons modifié nos statuts et nous avons créé une catégorie de membres européens de façon à pouvoir, lorsque nous rencontrons les instances européennes à Bruxelles ou à Strasbourg, représenter au-delà des marques françaises.
Parmi ces nouveaux membres, le tchèque Moser, la verrerie Moser, pourquoi ce choix et quels ont été les critères de cooptation de ces nouveaux membres étrangers ?
Eh bien, pour répondre en fait à votre deuxième question, nous avons souhaité que les critères d'entrée au comité Colbert de membres européens soient strictement les mêmes que ceux qui régissent l'entrée des maisons françaises. Et donc, ce sont cinq critères qui sont la présence et la notoriété internationale, la qualité, l'excellence des produits, la créativité, donc la capacité à se renouveler, ce que nous appelons, donc quatrième critère, la poésie de l'objet, c'est-à-dire tout cet imaginaire de la marque qui est créé autour du produit, et puis l'éthique. Donc les critères de recrutement de nos membres européens sont strictement les mêmes que ceux des membres français. Et nous avons effectivement choisi Moser parce que nous considérons qu'il y a là une marque tout à fait emblématique du savoir-faire tchèque et qui assure la notoriété et le rayonnement de la République tchèque à l'étranger.
Est-ce que Moser s'est imposé comme une évidence ou il a fallu analyser de près ces critères et que la marque remplit ces critères ?
Nous avons, de toute façon, nous analysons toujours les critères, mais c'est vrai que la marque s'est imposée comme une évidence. Elle a été proposée d'ailleurs par ses deux parrains que sont Michel Bernardo de la maison Bernardo en France et Jérôme de la Verniolle de la maison Saint-Louis, qui sont d'ailleurs qui est le concurrent direct de la maison Moser. Mais comme il est notre habitude au sein du comité Colbert, le parrain doit parrainer son concurrent direct et expliquer en quoi la maison qu'il parraine remplit les critères et est tout à fait digne de rentrer au sein du comité Colbert. Donc la maison Moser remplit bien ses critères. Elle a été parrainée par deux maisons françaises et elle s'est imposée de fait comme une évidence en République tchèque.
Alors est-ce que la langue de communication au sein du comité Colbert va devenir l'anglais ou est-ce que vous trouvez des francophones parmi les nouveaux membres européens ?
Eh bien nous avons la chance d'avoir au sein de Moser des représentants qui sont francophones, mais s'il le faut nous utiliserons l'anglais. D'ailleurs notre assemblée générale au cours de laquelle nous avons coopté ces nouveaux membres a été également l'occasion de réunir des associations nationales du secteur du luxe qui existe en Italie, en Angleterre et en Espagne, de recevoir d'ailleurs d'autres membres qui n'étaient pas cooptés mais qui sont des marques en Suède, au Danemark ou encore en Belgique. Et là, la langue était l'anglais. Donc nous saurons nous adapter à ce nouvel environnement.
Elisabeth Ponsol déporte avec Moser en République tchèque trois autres nouveaux membres de deux autres pays.
Nous avons donc Erent pour la Hongrie, qui est cette magnifique fabrique de porcelaine, là aussi tout à fait emblématique de la culture hongroise. Et pour l'Allemagne, la maison Montblanc, qui malgré son nom tout à fait français, a son siège à Hambourg et est une marque créée en Allemagne. Et puis la maison Leica, qui a la particularité d'introduire au comité Colbert un nouveau secteur, qui est celui de la technologie.
Et on connaît les célèbres appareils de photo Leica et je reviens sur Montblanc, vous l'avez dit, on aurait pu penser que c'était une marque française, c'est bien une marque originaire de Hambourg et spécialisée évidemment dans les stylos, dans les instruments d'écriture et d'horlogerie. Vous en parliez en début de cet entretien, c'est une façon en quelque sorte d'avoir plus de poids auprès des institutions européennes, de la Commission européenne pour ne pas défendre que le luxe français.
C'est exactement notre point de vue. De fait, nous considérons que depuis deux ou trois ans, l'environnement réglementaire, juridique qui nous vient de Bruxelles et qui force les différents pays à s'adapter à ces réglementations, peuvent jouer un rôle important pour l'avenir du développement de notre secteur. Et donc, il nous est apparu nécessaire de collaborer davantage avec les entités avec lesquelles nous collaborions déjà en Italie et en Angleterre. Donc récemment, une entité s'est créée en Espagne et donc voilà désormais quatre associations nationales d'entreprises du secteur du luxe. Mais l'Europe, c'est une Europe des 27, de 27 pays, et nous avons pensé que dans les pays qui ne possédaient pas encore d'association nationale, il était peut-être important, utile pour eux aussi, qu'ils aient un endroit où ils puissent bénéficier de ce réseau d'informations afin d'avoir une action commune vis-à-vis de l'Europe. Je pense que notre point de vue est aussi de mettre en évidence que le secteur du luxe, c'est vraiment une caractéristique de l'ensemble des pays européens. Alors certains pays ont plus de marques que d'autres, mais on trouve partout, dans tous les pays européens, on trouve des marques d'excellence autour de savoir-faire liés souvent à la culture, à l'identité de chacun des pays. Donc notre point de vue est d'élargir le plus possible cette représentativité pour que ces instances européennes aient conscience qu'il y a là vraiment un secteur qui exprime la personnalité de l'Europe et qui doit être aujourd'hui encouragé parce que c'est un secteur à haute valeur ajoutée et c'est bien sur ce type d'industrie et de produits que l'Europe aujourd'hui doit se concentrer, d'autant plus que c'est également un secteur qui est source d'emploi et que le développement de nos marchés internationaux, notamment en Asie et tout particulièrement en Chine, mais également au Moyen-Orient ou encore en Amérique latine, ce développement fait de notre secteur un secteur d'avenir, de croissance pour l'Europe et nous pensons que l'Union européenne a tout intérêt à encourager, à aider notre secteur à se développer encore puisque nous avons un fort potentiel de développement devant nous.
Elisabeth Ponsol-Desportes, je rappelle que vous êtes la déléguée générale du comité Colbert. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et très bonne journée à Paris.
Merci beaucoup.
C'est avec cette émission économique que s'achève cette émission en français de Radio Prague. Vous le savez, retrouvez tous ces sujets sur notre site internet sous forme d'articles et de podcasts. Rendez-vous ce week-end avec vos rubriques habituelles. Samedi, ce sera la culture, le courrier des auditeurs qui est votre rubrique, ainsi que la littérature. Et puis dimanche avec votre rubrique musicale. Merci de votre fidélité. Bon vent.